écoutez Chiz 94.3 FM, Québec.
Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Son de cloche, tous les jeudis de 10h à 11h, sur les ondes de Chiz 94.3 avec Augustin Béchi.
Les entrevues qui commencent à l'instant sur les ondes de Chiz 94.3. Mon nom est Émilie Rioux et pendant 60 minutes, je reçois des artisans de la scène locale musicale de la ville de Québec. Aujourd'hui, jusqu'à 15h, on a live en studio Olivier Amiot, la douceur et les bassistes, contrebassistes. Ils s'occupent des grosses cordes graves dans plusieurs groupes de la ville de Québec. On va en parler de fond en comble ensemble. Salut Olivier.
Salut Émilie.
Ça va bien?
Ça va super.
Yes, là tu te mouilles finalement. Donc,
exact. Je suis tout énervé là, d'être là avec toi aujourd'hui. Là, c'est vraiment excitant.
Écoute,
merci pour l'invitation.
Ça fait full plaisir. Écoute, moi, ça, j'avais le goût dans les ces derniers temps, en fait, dans le cadre d'écoute locale, les entrevues, de parler aux gens qui ont peu la parole généralement. Donc, et j'ai nommé les musiciens dans les groupes. Bien souvent, lorsqu'on a des entrevues, ben, c'est le chanteur, le guitariste peut-être, tu sais, qui va aller parler, qui va aller faire des entrevues.
Ah, il y a des clichés, hein?
Ben, quand même, tu sais, il y a des têtes d'affiche, disons,
oui,
au sein des porte-paroles.
Ben correct, d'ailleurs.
Ben oui, tout à fait. Puis il y a des gens qui préfèrent souvent rester un peu en retrait, faire partie un petit peu de la deuxième rangée derrière. On peut penser au drummer dans ce cas-là, mais le bassiste en fait souvent partie, justement, de ce qui tient finalement le band dans les fondations, hein, quelque chose qui est un petit peu plus fondamental, disons. On va en parler justement du rôle de la basse. Évidemment, on va parler de plein de trucs. Mais d'abord et avant tout, on est là pour faire une petite musicographie. Olivier Amiot, la douceur, donc de pouvoir comprendre un petit peu comment la musique qui arrive dans ta vie. Alors, je commence par une première question qui est toujours la même pour tous mes invités. Olivier, d'où es-tu originaire?
De Québec.
De Québec.
Oui.
De quel secteur de Québec?
De Sainte-Foy.
De Sainte-Foy.
Je suis pas mal dans mon hood là en ce moment.
Ouais, exact. Ouais. Donc, t'as vécu à Saint-Mondieu, un quartier qui, à l'époque, j'imagine.
À Saint-Louis-de-France, plus précisément, okay, là, dans le fond, en bas de la route de l'église.
Y avait-tu un peu d'activité culturelle à Sainte-Foy à l'époque?
Écoute, j'en garde pas un grand souvenir.
Dans les années 80, tu sais, fin 80.
Ouais. Non, mais tu sais, c'est ça, c'est pas dans mon quartier là que j'ai fait la découverte de la musique là, tu sais. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui se vivait dans la vie de quartier là, tu sais.
Est-ce que tes parents écoutaient de la musique?
Même pas tant que ça. En fait, je viens pas d'une famille de musiciens du tout. C'est vraiment avec les amis, moi, c'est quoique, tu sais, avant de jouer de la basse, j'ai joué du piano. Puis c'est comme mes parents qui m'avaient inscrit à ça, tu sais, un peu parce que ils trouvaient ça cool, tu sais. Puis genre ils trouvaient ça joli le piano, tu sais, tout ça. Puis mais moi je leur avais jamais demandé ça.
T'étais tout jeune, là, j'imagine.
Ouais, c'est ça. J'ai commencé le piano à peut-être 9 ans, genre, tu sais, comme j'en ai joué comme de troisième année à sixième année. Puis c'était comme un peu le deal là, avec mes parents. Ils m'avaient dit. Tant que t'as pas fini, il faut que tu fasses ça jusqu'à la fin de ton primaire. Puis après ça, tu pourras choisir l'instrument que tu voulais. Puis un jour, je pense, il y avait un peu dans l'esprit que c'était pour un peu enseigner une certaine discipline. Ouais. Là, je pense que ça allait un peu ensemble dans leur tête.
Ouais,
c'est
parce qu'ils n'ont pas suivi de cours de musique, eux, donc ils savaient pas vraiment nécessairement c'était quoi.
Exact.
Mais c'est vrai que certains enfants ont des activités sportives, par exemple, d'autres c'est la musique. Donc je pense que c'est effectivement des activités qui sont là pour avoir autre chose que l'école, là, offrir une espèce de fenêtre parascolaire aux enfants. Donc tes enfants, tes parents se sont arrêtés sur le piano.
Oui, exactement. Mais en fait, je pense qu'au départ, c'est ma sœur qui avait demandé ça. Moi, plus jeune, j'étais vraiment plus dans le dessin. Les arts visuels étaient dans ma vie bien avant la musique.
T'étais un dessineux, un crayonneux.
Ouais, exact. Puis c'est ça, je pense que c'est ma sœur qui avait demandé ça. Puis mes parents, ont toujours voulu faire à peu près égal pour tous les enfants. Fait qu'ils ont fait, Oli, tu vas faire ça toi aussi.
OK.
Puis j'ai fait, tu sais, au début, j'ai pas rouspété. J'étais là, OK, pourquoi? Tu sais, j'étais un bon joueur en général. Okay. Puis rapidement, j'étais pas trop ma tasse de thé, je préférais dessiner ou jouer au basket, tu sais. Puis fait que je leur avais demandé d'arrêter, mais ils étaient là non, on veut que tu continues jusqu'à la fin du primaire. Ouais.
Ça aurait pu quand même, je dirais, dessiner une relation un peu négative avec la musique.
Clairement, clairement.
C'est de dire que t'es pogné, t'es comme un peu enchaîné à ça parce que tes parents ont décidé, mais c'est pas ton initiative à toi. Est-ce que ça a eu quelque part un effet de je sais pas, de rébellion?
Mais non, pas tant que ça, parce que, tu sais, je pense que j'étais bon joueur, tu sais, pareil, malgré tout. Tu sais, puis, tu sais, je veux dire, si je me suis rebellé, si on peut appeler ça une révolte, là, tu sais, ça serait plus au secondaire, là, mais, tu sais, puis encore là, j'étais assez sage, là, quand même, là, fait que non, pas vraiment, parce qu'il y a un, mais ce qui a fait que j'avais, tu sais, quand j'ai eu ma première baie, je pense que j'étais doublement excité, tu sais, puis vraiment.
Oui,
oui, c'est ça, exact. Là, j'avais envie de pratiquer, puis j'étais emballé. Là.
OK. Oui, donc ça a quand même été déterminant d'avoir un contact avec la musique déjà, parce que le piano, c'est un instrument qui est quand même théorique. Donc, tu suivais des cours, donc il y a quelque chose dans les gammes, dans l'apprentissage de la théorie musicale qui est plus simple souvent avec le piano, puis c'est la raison pour laquelle cet instrument-là est assez enseigné chez les jeunes.
Oui, tout à fait. C'est simple à comprendre. Il n'y a pas, mettons, sur une guitare, il y a le même do à plusieurs endroits manche.
Là, tu le
vois,
ils sont placés.
Mais là, c'est ça. Il y en a un seul, un do 4, puis il est à cet endroit-là sur le clavier.
Exact.
Tu vas vers la droite, c'est plus aigu. Tu vas vers la gauche, c'est plus grave.
On a compris.
Simple de même.
Exact. J'imagine que c'est des pièces un peu de répertoire un peu classique, simple pour débutants.
Ouais, exact. C'était, je me rappelle, j'avais une fugue, mais je sais même pas c'est qui, de qui jouait, j'ai joué ça.
Ouais, c'est des petites pièces simplifiées de Debussy, puis des.
C'est ça, là. J'ai oublié. Dozen a Day. Dozen a Day, il me semble, c'était comme ça que ça s'appelait, le petit livre de pratique que j'avais.
T'as-tu gardé ça? T'as-tu quelque part?
Je dois avoir. Mais je pense qu'il y a ça chez mes parents.
On les
pense...
salue.
On les salue. Salut.
Fait que là, t'es arrivé au secondaire, puis là, t'étais la liberté, mais t'avais encore un lien musical fort qui était présent, mais t'avais le goût de jouer autre chose.
C'est ça, mais parallèlement, c'est que c'est ça. C'est né avec mes amis, là, en fait, là, avec mon ami de l'époque, Pierre-Yves Thériault. On salue Pierre-Yves. Dans le fond, lui, on a commencé par écouter de la musique ensemble. Dance Mix 94, tu sais, ces choses-là. Puis là, le trip, c'était juste de danser. Ouais. Là, on trippait.
C'est les années 90. Là, musicalement, c'est une décennie qui est assez disparate.
En tout cas, ça fit avec mes goûts musicaux. Je te dirais que moi aussi, je me sens assez disparate. Puis c'est ça. Puis finalement, c'est en écoutant Musique Plus qu'à un moment donné, je suis tombé sur un vidéoclip de Offspring, de The Offspring, qui faisait le top 20, là, si je me rappelle bien. Puis c'était Pretty Fly for a White Guy.
Ce vidéoclip-là,
Ouais.
Qui était drôle.
Oui, tout à fait.
Il y avait comme une tendance aussi, puis le vidéoclip, en tout cas, moi, c'est sûr que j'ai le goût d'en parler parce que c'est quelque chose qui m'a énormément influencé. Mais les vidéoclips, ça nous donnait aussi une espèce de ton au band. Tu sais, la chanson était drôle, était un petit peu ridicule. Le clip l'était tout autant, tu sais, puis c'était l'histoire d'un gars qui essayait d'être cool, mais qui était juste un gros loser, tu sais. He asked for a 13, but they drew a 31. Tu sais, c'est c'est juste tellement drôle. Puis effectivement, c'était un hit, ça, là. C'est un hit. Le hit pop de The Offspring, qui est un band qui est original, beaucoup plus punk. Là,
ouais, c'est ça, exact. Puis, tu sais, après ça, il y aurait toute la discussion, là, qu'est-ce qui est cool, qu'est-ce qui est pas cool. À cet âge-là, en plus, on commence à écouter de la musique, il y en a un qui te dit, hey, c'est pas cool d'écouter ça, là, tu te poses toutes sortes de questions, en tout cas, bref. Mais oui, moi, ça m'avait tout de suite vraiment accroché. Puis parallèlement, mon meilleur ami de l'époque, c'est ça, Pierre-Yves et sa mère, il avait offert une guitare en cadeau pour son anniversaire, je pense, puis il m'avait dit « Hey, Oli, prends-toi une bass, on va starter un band. »
C'est lui qui a décidé de l'instrument que t'allais jouer.
Mais il pourrait, ouais. moi, je vais être honnête, là, au début, quand j'écoutais de la musique, j'entendais pas la bass.
Ben, y a personne qui entend ça, à moins d'être juste dans les basses fréquences, là.
Non, c'est ça, exact. Puis, tu sais, c'était drôle, tu sais, parce que j'ai demandé à ma mère d'avoir une baisse. Elle fait que c'est quoi, ça, tu sais?
Ça sort d'où?
Ça. Puis, on l'entend pas. Tu sais, je me rappelle encore mes premiers spectacles, là, parenthèse, là. Elle venait me voir, puis elle était comme, je pense, j'ai entendu ce que tu faisais.
Pas sûr d'avoir caché ce que tu as fait.
Aujourd'hui, elle est très bonne, là. Aujourd'hui, on l'entend vraiment. Okay. Mais à l'époque,
Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que les bassistes auxquels avec qui j'ai parlé au cours des années, même depuis que je suis toute petite, je me rappelle au camp musical Saint-Alexandre, notamment, il y avait un prof de bass, tu sais, puis il nous racontait exactement ça. Il dit, à un moment donné, je me suis levé un matin, me suis mis à entendre la basse. Comme si c'était une espèce de magie noire qui faisait en sorte que là, tes oreilles changent, t'as un deuxième set d'oreilles qui arrive, puis là, tu te mets à l'entendre. Puis ça t'est arrivé, donc, puis il a fallu, j'imagine, que tu te concentres, que tu t'exerces aussi à entendre les lignes de basse.
Ben oui, c'est ça, là. On me demandait de jouer de la basse dans un groupe, là. Il fallait que je l'entende, tu sais.
Ça vient de cover,
là. Tu fermais les yeux, puis là, tu forçais, là. Puis là, tu. Je vais l'entendre. Là, à un moment donné, en fait, c'est en jouant, là, finalement, que t'associes tellement, tu viens qu'à créer une relation avec ce son-là. Fait que là, à un moment donné, tu l'aperçois dans le mix. Puis là, tu fais, c'est ça.
C'est ça. C'est capoté,
Ouais.
Parce que l'album, c'est toujours là, mais on l'entend quand elle n'est pas là, on dirait.
Aussi.
Tu es d'accord?
Oui, tout à fait.
On s'en rend compte qu'elle n'est pas là. Mais on s'en rend pas compte nécessairement quand elle est là, mais ça veut dire qu'elle est importante, donc.
Ouais, tout à fait. Puis tu sais, l'album, c'est ça qui est particulier, que, parce que, on va pas nécessairement tout le temps jouer des lines avec extrêmement beaucoup de notes. Puis je te dirais que les notes qu'on joue pas sont aussi importantes que les notes qu'on joue, tu sais. C'est tough de jouer des beaux silences, tu sais, genre, tu sais, puis les mettre aux bonnes places, tu sais. Fait que c'est vraiment spécial, puis beau et complexe. En même temps, d'être simple, la relation que la basse a avec le reste de l'harmonie, puis d'un ben en général, tu sais, c'est... Comme tu dis, on le remarque tout de suite quand elle est pas là.
Ouais.
Il manque quelque chose. Mais c'est ça, en même temps, faut pas qu'il n'ait trop, non. Tu sais, d'une certaine manière. Oui, c'est ça, tu sais. Après, il y a des contextes, là, mais.
Ouais, il y a des bandes de bass. Il y a des bandes avec d'excellents bassistes, puis même, je pense, ça prend, faut pas aller très, très loin dans la culture populaire pour, mettons, pouvoir nommer des trucs comme Red Hot Chili Pepper, ou est-ce que Flea, c'est comme un des. C'est une des vedettes du band, puis c'est le bassiste, parce que c'est un personnage extravagant.
Exact. Puis ça marque les bassistes. Je pense que presque toutes les bassistes ont leur période Flea, là. Oui. Moi, mais la plupart, là, en tout cas. Puis je fais vraiment pas exception à ça. Même encore aujourd'hui, à chaque fois que je joue, on me dit qu'il y a un petit côté Red Hot dans mes affaires. C'est ça. Je pense que je sais pas, je vais m'en détacher un jour. Je pense que c'est là, c'est dans mon ADN.
Après, ça dépend avec quoi on apprend à jouer de la musique. Ça, par exemple, c'est une constante chez tous les musiciens et musiciennes. Les tunes qu'on commence à repiquer lorsque c'est le cas, les chansons qu'on joue de la musique pop, qu'on joue avec notre instrument, souvent, ça va marquer notre manière de jouer parce que c'est la première. On imite. On en apprend par l'imitation.
Tout à fait.
Dans ton cas, c'est quoi les premiers bands qui ont été marquants dans ce parcours-là d'apprentissage de la basse?
Moi, ce qui est spécial un peu, c'est que j'ai comme eu deux parcours un peu... ce que j'écoute puis ce que je joue. Tu sais, ça s'est pas nécessairement passé de connivence, on va dire. C'est ça, parce que dans le fond, la première tune que j'ai appris à bass, je pense c'était Bruin Tribute là, de Pennywise. Puis tu sais, c'est ça, mes premiers cours de bass, tu sais, j'apprenais à jouer des tunes comme ça là, du Offspring, du Pennywise, des pièces
quelconques.
Ouais, dans le punk rock là, tu sais, puis mais rapidement, je me tannais. Je me tannais de jouer de mon instrument parce que j'étais là, j'ai joué cette tune là, puis tu sais, je sais plus quoi faire avec cet instrument là.
Est-ce que ça se ressemblait d'une tune à l'autre, c'est parce que c'était...
Je pense pas que c'était à cause que ça se ressemblait, c'était juste parce que je voyais pas encore le potentiel, la création dans l'interprétation à ce moment-là. Puis moi, je pense que c'est ça que j'aimais dans l'art en général déjà, tu sais, avec le dessin, c'était de créer des mondes imaginaires, tu sais, tout ça. Fait que je retrouvais pas nécessairement ça encore dans la musique à ce moment-là. Fait que, puis tu sais, puis après ça, tu sais, c'est ça, après le punk rock, je me suis mis à écouter du métal, puis tu sais, là, ça, c'était trop tough pour moi.
Une autre marche,
là. Ouais, c'est ça, c'était, fait que, ce qui a fait qu'à un moment donné, ça a explosé au niveau, tu sais, puis là, vraiment, la piqûre de la musique a embarqué, vraiment, pour de vrai, ça a été, j'ai pris des cours en duo, dans le fond, avec mon meilleur ami de l'époque, Charles, on était voisins. Puis on faisait les 100 coups ensemble, puis on en avait décidé de prendre des cours ensemble, lui à la guitare, moi à la basse. Pis on a pris ces cours-là avec François Rioux, guitariste des Lost Fingers. Professeur à l'Université Laval ici. Puis François, il a touché là, dans le mille parce qu'il nous a appris à jammer ensemble. En fait, c'est ça, il nous a montré, OK, voici une run de 3 accords, voici la gamme pentatonique que vous pouvez utiliser pour jammer ensemble puis échanger des solos, tu sais. Puis là, à partir de ce moment-là aussi, pour moi, ça, ça permettait de créer des lignes de base créatives qui étaient personnelles. Et que là, moi, c'est là que ça a explosé pour moi. T'sais, c'était en secondaire 4, j'avais 16 ans. Puis à partir de ce moment-là, c'était comme je pensais juste à la musique déjà.
Ah
ça,
ouais.
Ça a comme été un. On a commencé tout de suite à organiser des petits parties de sous-sol à toutes les fins de semaine avec les amis non musiciens comme musiciens qui venaient. Tout le monde apportait des bières.
That's it.
On apporte. Puis là, puis on jamais.
Wow.
Un peu n'importe comment, un peu tout croche, on avait du fun, tu sais, puis
ça donnait sans doute des résultats un peu moyens, mais c'est pas grave.
Non,
c'est,
exact.
C'est pas ça le but.
Non, c'est ça le but, c'était vraiment juste avoir du fun, puis je pense que c'était assez contagieux pareil, puis moi c'était comme une révélation là, tu sais,
ouais.
j'étais rendu, je pensais tout le temps à ça, fait que c'est ça qui a fait que j'ai voulu apprendre le jazz.
Oui, oh là c'est ça. Là,
c'est comme
ça
là, parce
la
là,
porte.
C'est ça parce que François nous a un peu comme initié par la bande avec le funk, tu sais, avec dans le fond avec du Urban Cock, tu sais,
okay.
des petites tunes pas trop tough à jammer.
Quand même dans le spectre du jazz tout ça là.
Oui, oui c'est ça exact. Ouais. Puis tu sais, puis là moi j'écoutais pas de jazz. Là,
ben non, il y a aucun ado, non, c'est pas vrai. Rares sont les adolescents.
Mais
il
y en a.
Écoute du jazz, il y en a. Simon Veilleux nous en a parlé la semaine dernière.
Ouais, non, c'est ça, exact. Tu sais, puis moi, c'était vraiment pas dans mon univers. Puis même, je trouvais ça assez difficile d'écoute, même
ouais.
au début, là, je vais être franc, là. Puis c'est vraiment en jouant que j'ai appris à apprécier le
alors
jazz.
Alors que la base dans le jazz, c'est quand même un instrument qu'on entend justement beaucoup.
Assez central, ouais. Ouais. Mais central, ouais. Oui, mais oui.
Ça dépend des jazz, mais.
Ouais, ouais, c'est ça. Ça dépend des jazz, mais en tout cas, du moins, effectivement, on peut pas la manquer, là, vraiment. Là.
Il y a moins d'instruments aussi. Tu sais, il y a pas de gros fuzz, hein.
Ah, il y a ça aussi. C'est une autre façon d'entendre la musique. C'est pas le même genre de mix, là. C'est
exact.
Clair.
Mais là, en secondaire 4, là. Avant qu'on aille à l'université ensemble.
Ouais.
T'as encore ton band? Tu joues encore avec le band qui t'a initié à la basse?
Tu parles mon
ouais ton ami là qui voulait que tu joues de la basse là.
Ah lui
là?
Non mais lui on a fait comme 2-3 compos ensemble. Je pense qu'on a, je dois hey, je vais voir ça sur des tapes quelque part chez mes parents mais
ah,
c'est
pour un prochain
épisode ça serait cool de retrouver ça. Je pognerais de quoi là, ça serait fou. Mais non tu sais surtout avec le secondaire tu sais c'était comme jusqu'au primaire c'était mon meilleur ami, on se voyait toutes les fins de semaine.
Ouais.
Secondaire on a comme pris chacun un peu nos
mm-hmm.
parce qu'on habitait pas dans le même quartier. C'est un ami genre de la garderie ce
ah,
gars-là.
C'est ça, là.
Tu sais fait que moi on allait même pas aller à la même école primaire puis on se voyait quand même les fins de semaine pour danser sur Dance Mix 94.
Oui, exact, c'est ça. Mais bon, fait que t'as pas eu un band nécessairement durant ton secondaire.
Non,
tu fais de la basse pour le fun un peu de ton
ouais,
côté
ouais.
là.
Non, c'est ça, ça tout okay. le temps, c'est ça aussi, tu sais, je pense que l'amour de la basse passe par le fait de jammer avec du monde parce que c'est tellement un instrument qui dans le soutien puis dans la relation avec les autres instruments tu sais ben tu sais tu peux jouer de la basse tout seul puis triper comme un fou mais ça reste que ça prend tout son sens quand t'es là pour supporter les gens supporter un soliste ou c'est juste un band un groove
ouais.
tu sais tout ça fait que ouais c'est vraiment là à par le jam que c'est né.
Par le jam, après ça, avec le jazz. Donc, du jam au jazz, finalement, on
du
va
jam
y
au jazz, mais on va voir qu'il y a, un intermède. Il y a un intermède entre le jam et le jazz.
On va en faire un intermède, nous autres, musical, parce que j'ai quand même le goût d'aller entendre The Offspring.
Oh, yeah.
Qui fait partie de ta playlist. Parce qu'écoute, local, les entrevues, c'est mon invité qui toujours choisit la musique qu'on va entendre, histoire qu'on puisse faire un petit portrait musical. On a la barre du choix avec toi, Olivier. Tu nous as amené vraiment une sélection de chansons assez
trop
diversifiées.
Chansons.
Mais c'est correct, on va peut-être mettre ça sur le site internet à la fin de l'année, puis vous allez pouvoir écouter un petit peu ce qui se passe dans les oreilles d'Olivier de toutes les époques, tous les Oliviers. Avec donc la chanson Take It Like a Man, pourquoi t'as choisi ça?
Ben, premièrement, c'est que j'écoute encore The Offspring de temps en temps, puis celle-là, c'est, tu sais, on dirait que les gros hits, je les ai trop écoutés, fait que je les écoute plus, puis là, ben, celle-là, elle m'habite encore, puis je l'aime beaucoup, puis pour une raison en particulier aussi, c'est que j'ai réalisé que dans mes goûts musicaux, il y a souvent du métissage. Puis je pense que ce que j'aime beaucoup de The Offspring, c'est on sent beaucoup la culture mexicaine. Tu sais, c'est un groupe de Californie, The Offspring. Puis, tu sais, c'est ça que j'aime beaucoup. D'ailleurs, on va entendre le petit shaker dans cette tune-là en arrière. Puis prenez attention aux mélodies qui font penser au cactus et à la tequila puis la sauce piquante là. T'sais.
C'est le single de Maillot en retard. Avec The Offspring, Take It Like a Man, tiré de l'album Ignition. C'est Écoute Locale, les entrevues avec mon invité Olivier Amiot, la douceur, qui se poursuit tout de suite après ceci. Take It Like a Man, The Offspring, c'est tiré de l'album Ignition, qui est leur deuxième album en carrière. On est donc dans les premières années de l'existence de ce groupe-là et ça bûche, my God!
Quand même!
On est loin de Pretty Fly for a White Guy.
Quand même! Ouais, effectivement, c'était pas leur hit radio. Non, mais
t'es pas encore très connu. T'es connu localement à l'époque. Ouais. Là, on est en 1992.
Ouais.
Donc, début des années 90 avec ces chansons-là et avec un band qui a pris son envol véritablement, en tout cas au Québec, je veux pas parler de tout, mais avec Smash.
Oui, mais je pense que moi non plus, je vais pas parler à travers mon chapeau, mais j'ai l'impression quand même que c'est là que ça a pris son envol avec les gros tubes tels que Self-Esteem, puis Come Out and Play.
Ouais, c'était des grosses tunes, ça.
Des grosses tunes. D'ailleurs, dans Come Out and Play, t'entends aussi l'influence un peu, là, tu sais, quasiment orientale, là, mais. Mais encore là, c'est un peu l'influence mexicaine. Moi, j'adore ça. Quand il y a du métissage comme ça, en tout cas, plus je vieillis, plus je me rends compte que c'est tout le temps quelque chose qui vient me chercher dans la musique.
Quand il y a des influences différentes, mais qui sont bien intégrées à un style musical.
Exact.
Puis tu me disais hors d'onde à l'instant que selon toi, dans le punk, malgré que c'était du punk, il y a tout le temps une racine culturelle différente qui vient quand même s'intégrer à la musique.
Mais c'est ça, c'est une énergie, tu sais, qui est commune, mettons, le punk, mais tu sais, mettons, on pense à Bad Religion, là, on peut entendre un peu plus le folk, puis le country américain, tu sais, se dégager de ça.
Ouais.
On parlait certains groupes plus la musique irlandaise, c'est des groupes bien sûr comme
Dropkick Murphys.
Il y a du Irish punk, c'est ça, exact.
Mais ouais, non, c'est quand même ouais. un style musical qui, malgré le fait que souvent il y a quatre accords, ouais. ça reste quand même qu'il y a une richesse musicale à explorer oui. là-dedans et que, ben, que tu as pu faire ouais. via donc différents covers à la base. Mais après, ouais. c'est bon, on racontait avant la chanson que tu t'es promené un petit peu, tu t'es mis à jammer. Là, tout d'un ouais. coup, tu pouvais être créatif avec ta bass, ça
ouais.
se passait.
Ouais.
Et là, bon, de fil en aiguille, on imagine que t'es devenu assez bon pour t'attaquer au jazz. Parce que le jazz, c'est quand même un style musical qui est assez demandant. Pas pour rien que c'est ouais. enseigné à l'université. Ouais. Les gens qui veulent apprendre à étudier en musique, souvent, il y a le pop, évidemment, mais il y a le jazz qui est quand même central et on passe par là.
Ouais.
Donc, à la fin de ton secondaire, t'étais rendu, j'imagine, à faire un choix de carrière.
Oui, tout à fait. Puis là, c'est là j'ai dit, je veux étudier en musique. Tu sais, j'étais pas encore, catégorique sur mon choix de carrière. J'ai fait quand même un double deck sciences humaines et maths avec musique.
T'es allé lousse, là.
Ouais, j'étais allé lousse. Ouais. Mais aussi, je pense, avec un peu de rétrospective, je me rends compte que c'était un peu aussi pour faire avaler la pilule à mes parents, là.
Ouais.
Quelque chose. Ben, mais face à moi-même aussi, tu sais, d'assumer ça, c'est quand même un statement, tu sais, d'assumer.
Ouais.
Moi, je suis musicien dans la vie, tu sais. Là, j'étais juste curieux pour l'instant. J'étais encore, je voulais, puis c'est ça. Puis François Rioux, qui est un jazzman hors pair, m'avait vanté un m'avait pas vanté mais m'avait
vendu l'idée quand même
vendu
là.
L'idée c'est ouais. ça c'est du jazz puis donc c'était ça puis c'était vraiment dans le but d'aller chercher les connaissances que je voulais aller là puis finalement je m'étais inscrit au Cégep de Sainte-Foy les cours se donnent ici au Caso puis la première année c'était obligatoire de faire une année de classique. Finalement, j'ai tellement aimé l'archet, la contrebasse classique, que j'ai fait tout mon cégep en contrebasse classique. J'ai pas fait de jazz comme je mets. C'était ça le plan initial,
ouais,
là,
ouais.
tu sais. Donc,
tout d'un coup, il y a un archet qui est rentré, là.
Tout à
parce
fait.
Parce que c'est pas vrai que c'est de la grosse baisse électrique. Là. Quand t'arrives, c'est vraiment ta baisse, t'as la vire en verticale, puis après, une autre proportion.
Oui.
C'est un autre instrument complètement, là.
Complètement, tu sais. Moi, je pense qu'au début, ce qui m'a beaucoup fasciné de ça, puis qui est venu me chercher, c'est que il y avait un potentiel d'expression incroyable avec l'archet, tu sais. Contrairement, mettons, à une baisse ou une guitare que tu attaques la note, et là, elle meurt.
Ouais.
Tranquillement, il faut la réattaquer pour réémettre un nouveau son. Avec un archet, tu peux partir doux, aller de plus en plus fort, redevenir doux et refort.
Crescendo,
c'est
ça. On peut s'amuser beaucoup avec la texture du son, effectivement.
Exactement. Puis j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose un peu proche de la voix humaine, tu sais, là-dedans. T'sais, donc moi, c'est ça m'a vraiment parlé, ça m'a beaucoup touché. Puis j'aimais beaucoup mon professeur aussi.
C'est important, ça, quand même.
C'est important, ouais. Oh, ouais. Vraiment. Puis il m'inspirait beaucoup, fait que j'avais envie d'aller au bout du périple avec lui. C'est ça. Fait que j'ai fait tout mon cégep en contrebasse classique.
Complètement différent. C'est quelque chose qui demande beaucoup de discipline aussi. À partir du moment où tu décides d'étudier en musique, il y a un moment où est-ce que ça passe de quelque chose de récréatif à quelque chose qui est devenu ton occupation principale, que tu dois faire impérativement, puis que c'est vraiment presque ton travail.
Oui.
Comment t'as vécu cette transition-là de dire, OK, maintenant,
c'est
du sérieux? Ouais.
C'était tough. Ouais, oh, j'ai trouvé ça tough. Tu sais, ça a pris du temps, pareil, dans ma vie de musicien, là, avant d'aimer ça, pratiquer, puis de trouver un peu ma zone là-dedans. Là.
Ouais.
Déjà que j'étais pas un élève particulièrement studieux au secondaire, là, tu sais, je préférais passer du bon temps avec mes amis. Fait que ça a été tout qu'un apprentissage, là, je te dirais. Ben heureusement que la musique me motivait puis me stimulait, tu sais, parce que ça me forçait à me faire un peu mal, tu sais.
Oui, oui, c'est ça.
t'sais, parce que c'est ça aussi, là, à un moment donné, t'as un objectif, tu veux l'atteindre, mais là, tu sais, ça vient pas tout seul, tu sais.
C'est ça.
C'est comme s'entraîner, tu sais, en salle, tu veux prendre la masse, ben, il va falloir que t'ailles mal un peu, c'est ça. Fait que c'est un peu le même principe. Au début, je me rappelle, là, je pratiquais une demi-heure puis j'étais brûlé raide.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Ouais.
Côté genre de concentration, de genre de physique aussi, c'est con, mais.
C'est les deux. Hein. La concentration, c'était mental. Tu sais, puis c'est le. Tu sais, ça prend peut-être le courage aussi, là. Tu sais, je veux dire, tu l'as pas du premier coup, là. Fait que là, c'est pas de se décourager, puis de rester persévérant par rapport à ça. Tu sais, c'est ça. Tu sais, moi, je me rappelle, des fois, j'étais découragé. Ouais. Tu sais, mais je pense que tout le monde.
Mais tu peux aussi regretter ton choix de cours aussi, de faire comme, hey, finalement, c'était peut-être pas ça. Tu sais, non, mais tu sais, il y a tout ça, des remises en question souvent. Ouais. Je sais pas dans ton cas, mais je pense que quand on est au cégep, on est encore à l'étape de se demander si on a fait les bons choix pour pouvoir se réaligner vite, tu sais, par la suite. Surtout de la part de quelqu'un qui a pris ça large au cégep puis qui a des portes encore ouvertes par la suite.
Complètement, tu sais, complètement. Puis ouais, fait que c'est ça. Puis mais tu sais, à chaque fois, il y avait quelque chose qui me ralliait à ça, qui me raccrochait, c'est que je savais que j'aimais ça.
OK.
Tu sais, je savais que j'aimais ça. Fait que tu sais, chemin faisant, tu sais, je voulais pas trop me faire mal non plus, tu sais, fait que je continuais de voir mes amis puis triper, mais à un moment donné, une fois de temps en temps, tu sais, plus ça allait, plus les années avançaient, je te dirais, plus je développais ma persévérance, plus je développais ma rigueur, exactement. Mais c'est vraiment quelque chose qui est venu avec le temps. C'est pas venu tout de suite. Puis en plus, tu sais, 17-18 ans, là, pour moi, c'était pas facile, justement, de trouver qui j'étais dans la vie, là, puis de, tu sais, crise existentielle de jeune adulte. Ouais, non, c'est ça, exact. Fait que moi, j'étais perdu raide, tu sais, fait que j'essaie d'y aller en fonction du plaisir.
T'as fini par y arriver, hein. On s'en parle aujourd'hui, j'imagine que ça s'est bien passé.
Oui.
Pour finalement arriver, j'imagine, à l'Université Laval en musique, au conservatoire.
Mais parce que ce qui est arrivé, c'est qu'après mon cégep, je savais pas justement ce que je voulais faire de ma vie. Je suis parti donc un an PAXAC en Europe.
That's it.
avec aucun projet, rien là, tu sais, j'avais rien qui m'attendait derrière, puis rien devant non plus, je savais pas ce que je voulais faire. Ça a été une année incroyable où tu sais, je me suis fait des nouvelles amitiés, j'ai pu aussi me découvrir dans un autre contexte qui était pas celui de ma culture du Québec, de me voir ailleurs que dans les yeux de mes amis, ben, c'est ça aussi le secondaire, tu sais, le plus jeune, tu sais, on se voit beaucoup à travers les yeux des autres, tu sais, puis ça m'a permis de prendre des risques puis de m'émanciper de ce côté-là, je te dirais. Puis en revenant de ce périple-là, il y avait une chose qui m'avait manqué, puis c'était la musique.
Fait que j'ai dit, bah, that's it.
Non, fait que pendant un an, j'ai pas joué de musique. Mais je m'étais acheté un ukulélé de voyage. C'était mon instrument de voyage, puis c'est ça. Puis je me suis amusé un peu, mais tu sais, il y a quelques moments dans mon année où j'ai eu la chance de tomber sur une basse, puis à chaque fois, je suis ah, malade, c'est trop cool, tu sais, ça me faisait vraiment plaisir. Mais, ouais.
Donc, c'était une sabbatique du point de vue de la musique, en tout cas.
Ouais, vraiment.
Partir, tu sais, le voyage initiatique, le classique.
Classique,
c'est parfait comme ça. Donc, à la fin de cette année-là, tu reviens au Bercail.
Et là, je dis, bon, premièrement, j'avais tout flambé mon argent, fait qu'il n'était pas question de m'acheter une contrebasse, j'avais plus de sous. Puis là, j'étais comme, OK, ben là, je vais étudier en musique, je retourne au plan initial, je veux apprendre le jazz.
Oui, parce qu'on l'a pas encore fait, là.
Non, c'est ça, exactement. Il y a un petit détour classique,
ben
là,
oui,
entre-temps. Fait que je veux apprendre le jazz, parfait. Je m'inscris, puis là, je suis refusé.
Ah oui?
Moi, je passe l'audition, puis je suis refusé. Puis là, je fais genre...
Merde, ben t'sais, oui,
puis là, je me retrousse les manches. Là, je dis, c'est vraiment ça que je veux faire, tu sais. Puis moi, dans ma tête, il y avait une affaire. Je me disais, je veux juste apprendre, tu sais. Vous m'empêcherez pas d'apprendre, quand même, tu sais. Je me demande pas de m'engager. Je veux juste apprendre. Fait que c'est ça, je me suis retroussé les manches. J'étais refusé une deuxième fois.
Voyons.
Ouais, j'étais refusé deux fois. Puis là, après ça, j'avais fait le tour des universités pour la troisième fois qui était comme ça passe ou ça casse. Soit, tu sais, j'étudie là-dedans. Puis ce que je m'en rends aussi avec le recul, c'est, tu sais, j'avais besoin d'étudier à l'université pour comme me légitimer là par rapport à ce choix-là.
Avoir une crédibilité.
Ouais,
comme
c'est
musicien,
ça exactement. Ouais. Alors que, tu sais, justement, je devais parler avec mes profs après mon deuxième refus, tu sais, parce que je prenais des cours en privé pendant ce temps-là pour me préparer à l'audition, tu sais, puis. Il y a vraiment pas juste l'université là, comme parcours viable, là, on en connaît plein là, des musiciens
qui ont jamais été à l'école nécessairement,
à l'école puis qui ont des super carrières là en ce moment là, fait que effectivement, mais moi je pense j'avais vraiment besoin de ça pour me donner le droit de faire ça dans la vie, puis j'ai été accepté finalement,
jamais 203, c'est ça,
c'est une fierté aujourd'hui d'avoir pas abandonné, puis d'avoir vraiment voulu, d'avoir tenu bon, puis à la fin de mon bac, accepté pour rentrer en interprétation jazz à la maîtrise, que j'ai pas fait parce que je voulais jouer, je voulais faire des shows.
Ouais.
Mais j'étais assez fier de moi là-dessus, d'avoir persévéré.
T'as cogné fort à la porte, puis t'as été patient.
Oui.
Tout en continuant, j'imagine, à te perfectionner parallèlement, même si t'étais refusé, je veux dire.
Oui, c'est ça. Ben là, j'étais là, clairement, il me manque des... Il faut que je mange mes croûtes, là, tu sais.
Ouais.
Fait que là, j'ai pris des cours avec Sylvain Audette, bassiste électrique de Québec, qui m'a... Justement, on a repris les bases, puis... grâce à lui, je pense, il m'a beaucoup aidé dans mon parcours.
Ben, c'est intéressant parce que bon, ça nous donne aussi ce parcours-là, cette idée de ce parcours-là. Il y a plusieurs, tout le monde a des parcours très différents, tu sais.
Ouais.
Le toi, c'était comme, OK, j'ai besoin d'encadrement, je veux me faire coacher, je veux me faire, tu sais, t'as besoin d'avoir quelqu'un devant toi pour te guider dans ce que t'allais faire.
Exactement. Puis je te dirais qu'encore à ce jour là ça m'aide vraiment une fois de temps en temps de prendre un cours à gauche à droite là. Comme vois-tu la semaine passée, j'ai pris un cours de contrebasse avec un Américain online qui s'appelle Chase McRoy, qui est un super contrebassiste rockabilly qui slap, tu sais. Puis c'est une technique que je veux apprendre puis que j'aimerais intégrer dans mes projets comme Bosco là, Bosco Baker. J'aimerais beaucoup pouvoir intégrer ce langage là dedans. Puis ça me motive, ça me donne du gaz, puis tu sais, ça me fait du bien aussi d'avoir un retour. Ça me permet un peu de faire un checkpoint là, tu sais, par rapport, je suis rendu où dans mon
on
parcours.
On n'a jamais fini d'apprendre finalement.
Non.
Jamais.
Non, exact.
T'aimes ça apprendre.
Vraiment. Oui, c'est ça, exact.
On est rendu là. Hey, on va faire une petite pause publicitaire et musicale.
Ah,
puis ensuite, on va jaser de ça. On continue de jaser musique, de jaser. Ben, c'est super intéressant. À Écoute Locale, les entrevues avec moi-même, Émilie Rioux, et mon invité, Olivier Amiot-Ladouceur.
Avide de découverte, tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chiziennes? Visite le www.chiz.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chiz.ca.
Pour entendre la dernière chanson des Shirley, savoir ce qu'Olivier Artaud fait en théâtre ces temps-ci et être au courant de tous les événements organisés par le collectif Ramen, c'est Chérie J'arrive qu'il faut écouter. T'as aucune idée de qui je viens de te parler? Raison de plus pour ouvrir ta radio de 16h à 17h30 tous les jours de semaine.
Chérie, j'arrive!
Dans le cadre du 39e Festival international de musique actuelle de Victoriaville, Chiz 94.3 est fier de présenter, en collaboration avec CSM 89.3, le concert rock et post-punk du groupe italien Buñuel. C'est un rendez-vous le samedi 20 mai minuit à Victo. Pour plus d'informations, visitez le fimav.qc.ca.
Thank you.
Ah, la petite clarinette de Django Reinhardt,
okay, oui.
Sur la pièce Nuages, parce qu'on jase de jazz, parce que c'est par là qu'il a dépassé avec son apprentissage de la contrebasse.
Ouais.
Et là, on est dans une formule plus acoustique, tu sais, c'est la contrebasse, pas de la basse électrique, évidemment, tu sais. En tout cas, dans la plupart des jazz, disons ça comme ça.
Ouais.
Mais là, la question qui tue, Oli, c'est, t'as-tu une préférence?
Entre la basse et la contrebasse?
Ouais.
Non. Non, j'ai pas de préférence. Je te dirais que de ce temps-ci, je travaille plus sur la contrebasse parce que c'est plus, tu sais, c'est plus en lien en fond avec les projets que je veux pousser en ce moment. Puis je me sens plus à l'aise à la basse électrique. Puis je trouve que j'ai plus à peaufiner sur la contrebasse.
Okay.
Donc c'est pour ça, de ce temps-ci, je fais plus de contrebasse, mais tu sais, j'ai un amour inconditionnel pour la basse électrique aussi.
Ouais. Ouais. C'est quoi tes go-to là, quand tu dis, OK, j'ai le goût de jouer de la basse, j'ai le goût de basse électrique, mettons. Tu sais, comme, c'est quoi ton go-to style de musique qui te fait vraiment triper?
Écoute, je pense que n'importe quel bassiste qui prend une bass se met à groover un genre de beat un peu funky, là, tu sais. Je pense que naturellement, c'est ça que je fais quand, genre, je pars un peu. Ad lib, on va dire, sans beat, rien. Mais c'est ça, de ce temps-ci, c'est assez varié. Des fois, je veux travailler plus le pocket. Récemment, je montais une toune de Parcells que j'avais publié sur les réseaux sociaux pour montrer un peu c'est quoi que je fais justement dans mon bureau, dans ma salle de pratique. Sinon, tu sais, je trippe aussi là en ce moment, je monte une petite toune de Bruno Mars pour le fun, la groove avec Anderson Paak, une toune Fly As Me, là, que c'est une super belle ligne de basse. Puis encore une fois, l'idée, c'est juste de se concentrer sur le pocket, tu sais, puis donc ça, je te dirais, il y a ça. D'un autre côté, j'ai un retour aux sources aussi, je pratique mon coup de pic en jouant du NoFX, tu sais, puis fait que je te dirais go to selon mon émotion du moment, mais c'est ça. Funk punk. Puis bluegrass à la contrebasse. Puis archet aussi, je travaille beaucoup mon archet ce temps-ci à la contrebasse, je reviens à ça aussi.
Mais est-ce que la contrebasse archet, tu sais, on parle de classique tout à l'heure parce que c'est là que tu l'as appliqué ou tu l'as découvert en premier. Est-ce que dans la musique pop ou en tout cas dans les bands dans lesquelles tu joues, ça serait comme quelque part
Mais c'est souvent un effet qui est le fun pour des intros là, comme avec dans Ellie Doyon à la tempête, tu sais, on a une transition à un moment donné où je joue à l'archet avec du delay, tu sais, puis du chorus, exact, je joue de la tempête. fait que tu sais, puis on peut se faire comme des effets, des longs sons de baleine, on va dire. Donc, c'est ça. Pour l'instant, je m'en sers beaucoup pour faire des effets, mais j'aimerais ça pouvoir l'approcher justement plus encore comme quelque chose de plus central, plus mélodique. Oui, exactement. Oui, oui.
Parce que c'est vrai, donc, la basse a rarement la mélodie.
Ouais.
Dans la vie, on est comme derrière. Ça force à écouter, à être vraiment plus en phase avec le reste du band lorsqu'on est vraiment, comme tu le disais tout à l'heure, en support.
Mm-hmm.
C'est rare qu'il y ait quelque chose de c'est pas vrai, des fois il y a de la mélodie dans la basse quand même, il y a des lignes de basse que lorsqu'on les isole, on fait mon Dieu, mais c'est une nouvelle chanson qui vient d'apparaître.
Mais c'est une mélodie, la ligne de basse, souvent en fait c'est juste plus est plus simple et est plus fonctionnelle aussi, elle a un rôle plus fonctionnel, et là quand même pour aller chercher une certaine assise, il faut que le reste du band puisse se reposer dessus. Mais tu sais, c'est un genre de contre-champ avec la mélodie qui t'a c'est les deux extrémités, hein, t'as la mélodie, la voix
au début
dans les
aigus,
puis la basse qui t'en, mais c'est ces deux là ensemble à quelque part qui vont créer toute l'espèce de mouvement qu'il y a dans la chanson, tu sais. Après, puis là, l'harmonie est au milieu, puis vient colorer tout ça, puis créer une ambiance. Puis là, c'est vraiment cool, là, tu sais, ça aussi, tu sais.
Les gens qui disent quoi, ils vont se mettre à entendre des affaires tout d'un coup, là, écouter des tunes, puis à faire, OK, où la mélodie, où la dynamique entre les deux. En tout cas, moi, j'aime beaucoup essayer de faire l'exercice, d'écouter, d'entendre la basse dans différents styles musicaux, parce qu'il y a différentes fonctions aussi, dépendamment des époques, dépendamment de ce qu'on a. J'avais envie de te demander, t'as-tu un role model en bass? Tu es vraiment comme ton modèle, ton inspiration de bassiste?
C'est une excellente question.
Ou d'elle, peut-être.
C'est sûr que, tu sais, de ce temps-ci, quand je joue de la bass, je pratiquent vraiment le pocket, là, tu sais, le pocket pour ceux qui nous écoutent, là, qui savent pas trop ce que c'est l'espèce de court laps de temps, là, c'est des millisecondes qu'il y a entre le beat, là, on va dire
le drum,
le drum qui donne la pulsation, en fait, la pulsation, il y a un petit espace de temps autour de ça où on peut jouer, on peut être en avant du beat, sur le beat, juste un petit peu derrière le beat, mais tout ça reste groovy parce que c'est dans le pocket. Puis cet espace-là, le pocket, c'est là où il peut avoir... ça peut tout changer le feel d'une chanson, en fait. Dépendamment comment c'est joué, comment c'est filé. Puis c'est ça qui m'intéresse de ce temps-ci quand je travaille à la baisse pour être plus conscient, plus en contrôle de ce pocket-là. Ouais. Si je décide que je suis en arrière du beat, si je suis sur le beat, je suis sur le beat, si je suis en avant,
avoir
je suis en
le
avant.
Choix.
Exactement.
Plus de choix.
Exactement. Puis, fait que c'est sûr que quand je pense à le pocket, je pense à des bassistes comme James Jamerson.
Qui est un bassiste des années Motown, qui était très, très, très populaire.
Oui, exact. Puis ça, je pense que quand t'as ça comme bassiste, quand t'as un pocket comme ça,
apparemment que je vais juste avec un doigt.
Ouais, ben.
Ça a l'air.
Ben,
capoté.
Capoté, hein? Django, il joue avec deux doigts. Lui.
Voyons donc. et donc, toutes ces techniques-là qui viennent de différentes époques, de différents modèles, de grands musiciens à travers les époques.
Mais en même temps, je suis pas non plus le bassiste. Tu sais, je suis pas très bass hero, je vais dire. J'en ai écouté du Marcus Miller, puis du Victor Wooten, tout ça. Puis c'est pas ce que j'ai le plus dévoré. On dirait que je me tanne un peu. Tu sais, c'est pas à ce que la basse soit front quand j'écoute de la musique.
C'est pas le plus de notes possible, le plus vite possible.
Puis d'ailleurs, ça me fait penser à peut-être une tune qu'on pourrait écouter. Justement, que j'avais apporté. Parce que justement, à l'université, il fallait faire des solos de bass. Puis moi, j'étais pas tant un tripeur de solos de bass. Puis il y avait cette attirance-là pour la musique un peu orientale. Puis j'ai découvert Avishai Cohen, qui avec la chanson Shir Pedra, qui est une super belle... Lui, c'est un bassiste, contrebassiste, mais il joue de la bass électrique. D'ailleurs, dans cette chanson-là, c'est un solo de bass électrique. C'est juste piano, voix, puis la bass électrique arrive juste à la fin pour un solo de bass. Puis je trouvais ça tellement beau. Puis là, j'étais comme, la baisse a tout ce potentiel-là, mélodique puis expressif. Pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a touché. Puis tu sais, quand je fais un solo de baisse, j'essaie de penser un peu à cette ambiance-là. Cette esthétique-là, là, très lyrique. Encore là, on parle de la mélodie, là, c'est ça, là.
Ouais.
Ça a le potentiel d'être très mélodique.
Moi, j'aime la mélodie. Tu vas nous faire découvrir ça. Définitivement, je suis mal certaine qu'il y a 0,02 personnes qui nous écoutent qui connaissent Avishai Cohen. La chanson s'appelle Shir Pedra. On va entendre ça, surtout le solo de basse. Ouvrez grandes vos oreilles vers la fin.
אל הים אלך, אל השמש אפנה כי האור שלה אצלי כבר קבע אהבה חדשה הנה אני בא
solo, hein?
Avoue, hein? Tu trouvais ça un peu chaotique.
Ben oui, j'ai fait comme « Ah, what? » Je comprenais plus rien, mais... ben non, mais c'est correct, ça, mais ben oui. Je m'attendais pas à ça.
Non, mais c'est vrai que c'est surprenant, puis c'est ça, c'est exactement comme un soliste, tu sais, comme, mettons, on pense à Louis Armstrong, tu sais, qui chantait une chanson, puis là, prendre sa trompette pour faire un solo après, tu sais, sur la forme. Lui, il fait exactement la même chose. En ce moment, il est accompagné par un pianiste. Ben, je sais même pas,
peut-être.
Est-ce
que
c'est lui qui joue? Je sais pas. Puis c'est lui qui chante, tu sais, puis exactement comme Louis Armstrong l'aurait fait,
il va prendre la
il punk sa base, il se clenche un solo là-dessus.
C'est tellement original, c'est tellement inattendu, j'ai l'impression, dans les codes de ce qu'on attend de la musique, tu sais, de ce qu'on attend de la base.
Ouais.
On la conçoit pas souvent comme ayant ce rôle-là, donc c'est quand même audacieux de sa part.
Vraiment.
Mais je comprends pourquoi t'as pu faire OK, ça. Ça me parle. Ça, c'est une autre manière de voir l'instrument et la musique.
Puis il y a quelque chose aussi, tu sais, ben, toi, tu trouvais comme avec le piano, c'était un peu chaotique.
Je comprenais pas vraiment. Là, ouais, j'étais comme moins sur le temps. C'était comme si c'était décomposé un petit peu.
Puis moi, il y a quelque chose, justement, tu sais, qui peut-être qui me tannait un peu, tu sais, dans le jazz traditionnel, souvent presque toute la band va complètement arrêter de jouer, ou juste le batteur va garder un petit ballet, tu sais, pendant le solo de basse, tu sais, donc c'est principalement ça qu'on entend, on entend une petite note de piano à gauche, à droite pour là dire OK, on va bientôt retomber dans la forme, fait que là, tenez-vous prêt tout le monde, tu sais. Alors que là, vraiment, l'instrument, le piano, qui est l'instrument accompagnateur à ce moment-là, reste là et accompagne le solo de bass de A à Z, tu sais, puis moi ça me parle parce que tu sais moi ça me donne du gaz, tu sais, d'avoir le support harmonique comme ça, tu sais. Puis je trouve ça fun que la bass a puisse s'asseoir à son tour sur le reste du band. Ben,
on a une image.
Ouais.
Reste que t'as pu trouver le créneau créatif à travers tes différentes collaborations, à travers les différents bands avec lesquels tu joues. Et ça t'a permis donc de. Je veux dire ça comme ça, t'es comme le gigueux, là. Tu sais, comme t'as différents, t'as des projets de composition, t'as un band de cover où est-ce que là, tu vas vraiment juste t'amuser sur la scène, faire des chansons pop. Interagir avec la foule, tu sais, vraiment
tout
comme
à fait.
Le gros plaisir, d'autres que c'est plus de la composition, où est-ce que là, tu peux plus mettre ton grain de sel, plus essayer de t'amuser à justement créer.
Oui, exact. Certains projets où je suis vraiment central dans la composition, mettons comme avec Festoot, mais admettons avec Ellie Doyon, tu sais, c'est Ellie qui apporte, tu sais, puis lui, il a pensé à la plupart des arrangements en amont, tu sais, fait que moi je fais des suggestions, mais tu sais, je laisse ça à sa discrétion, c'est à lui, tu sais, puis moi je suis là pour servir sa vision, fait que c'est le fun d'avoir différents rôles,
Puis tu t'es parti aussi récemment un projet de musique électronique.
Oui, exact.
Complètement autre chose, ouais.
Oui, puis c'est ça, je pense que c'est le but. Au bout d'un moment, c'était de de pouvoir justement dans la création me permettre de faire aucune concession.
Ah voilà.
C'est le fun à un moment donné.
Parce... C'est tout, tout, tout.
Oui, c'est ça, tu sais. Puis j'adore le rôle de bassiste. Je me passerais pas de jouer avec du monde, tu sais. Puis d'être là pour comme servir une vision globale, tu sais. Mais à un moment donné de faire comme justement, tu sais, j'en vois un moi sur ben sur la, le piano là en ce moment,
ouais,
tu sais,
ouais. Genre, tu sais,
tu sais, ouais, ben de pouvoir le faire exactement, tu sais. Puis là, c'est sûr, c'est la musique électronique parce que comme je disais, ben tu sais, moi je suis pas un tripeux de musique de bassiste nécessairement ou de bass hero. Puis le beat, ben tu sais, le beat, je pense, ça va de connivence avec la groove, la bass. Tu sais, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Puis encore une fois, peut-être avec le jazz, tu sais, l'électro m'a amené au jazz, le jazz m'a amené à l'électro, puis le hip-hop, tu sais, fait que tout ça c'est un peu bâti ensemble. Puis ben c'est ça. À un moment donné, j'ai dit ben je faisais des expériences chez nous, puis à un moment donné, ben il y a eu des projets de conception sonore qui sont arrivés. J'ai fait une trame sonore avec Claude Amor en 2019 pour une pièce de théâtre. Puis là, j'étais comme j'aime vraiment ça créer, puis être autonome, puis tu sais vraiment avoir comme la voix. Mais là, tu sais, c'était pour supporter une trame narrative.
Ouais. Mais c'est une autre chose complètement là, c'est vraiment ça accompagne.
Ouais.
En plus, tu sais, ça accompagne une œuvre.
Ouais.
Qui est pas à toi, mais tu sais, bon, c'est un autre volet finalement qui t'es comme au début, j'ai l'impression, de ce chemin là.
Oui, c'est ça, exact, ça c'était le début, tu sais, mais là c'était tout en autoproduction là, tu sais, fait que donc ça puis tu sais, là c'était la première fois que, tu sais, d'une certaine manière, je portais le chapeau de, tu sais, pianiste, je suis zéro pianiste, tu sais, mais tu sais,
t'as commencé par là pareil.
J'ai quand même commencé par là, mais c'est ça, chez nous, quand je fais des B, tu sais, ben je vais prendre un piano puis je vais jouer quitte à baisser le tempo pour le jouer plus lentement, puis après ça, ben avec la magie des logiciels, ben fous une poche, mais oui. Non, puis tu sais, je pense c'est la beauté aussi de faire de la musique organique à côté, c'est que je suis conscient de mes limites, fait que tu sais, moi j'ai l'intention aussi d'inviter des artistes à travailler avec moi, tu sais, puis je connais l'importance, tu sais, de ben du travail, tu sais, que ces artistes-là font derrière, fait que tu sais, moi je veux pouvoir les payer, tu sais, pour faire ça, bref, puis aller chercher ça, les talents, tu sais, puis les reconnaître.
Yes. En tout cas, on te souhaite quand même de grands succès avec ce nouveau volet-là, autant qu'avec tous les autres groupes avec lesquels tu joues, dans toute la créativité que tu peux y apposer. C'est super de pouvoir t'avoir aujourd'hui à Écoute Locale, les entrevues qui tirent déjà à sa fin.
C'est
on
fou,
est déjà
ça passe
au bout
vite.
De ce 60 minutes-là où est-ce qu'on a découvert tes débuts au piano en dépit de tes hésitations, mais avec tes parents derrière qui soufflaient le vent dans tes voiles.
Oui,
avec tout l'apprentissage de la bass, le punk, le funk, le jazz. Et finalement, ben, officiellement, tu en fais une carrière. Tu es musicien temps plein.
Exact.
Et c'est cette année d'ailleurs, tu le disais, là, que officiellement, là, t'as pas de day job, ou tu te lances à fond là-dedans.
Ouais, non, c'est ça. En ce moment, j'ai rien d'autre que la musique, puis ça me remplit de bonheur.
C'est incroyable. Bravo pour ça. Bravo pour tes deux auditions, trois auditions.
Ouais, exact. Ben oui.
En musique, ça a valu la peine d'être têtu. D'y arriver en bout de
ligne. Ça vaut la peine de faire ce qu'on aime, je dirais, tu sais.
Ouais.
Donnez-vous la chance de, puis le, comment je dirais, les moyens de vos ambitions.
Ouais.
Donnez-vous
c'est ce
les
que
moyens
tu donnerais comme conseil à des jeunes qui veulent commencer.
Oui, exact. Écoutez mes conseils, les jeunes.
Écoutez Monon Colivier, là.
Pas toujours, mais bon.
mais au moins de dire, OK, on s'arrête pas. Au premier refus, on s'arrête pas à la première hésitation ou à des choses qu'on a le droit de se remettre en question.
Oui, c'est ça. Puis c'est assez rare, au final, les artistes qui ont pas frappé des murs à un moment donné, ça fait partie du périple. Puis faut apprendre à rebondir.
Ouais. C'est un beau conseil, c'est un sage conseil. Merci beaucoup, Olivier Amiot La Douceur.
Merci beaucoup.
Écoute,
à toi.
Il y a encore plein de chansons qu'on n'a pas jouées, mais on aura l'occasion de les mettre sur le chiz.ca à la fin de la saison. Je vais comme tout vous envoyer ça. Vous allez pouvoir réécouter l'émission, vous allez pouvoir entendre l'univers musical d'Olivier et ensuite avoir des liens pour aller entendre les différents groupes dont on a parlé, qu'on a name-droppé un peu. Et sinon, ben, ça se retrouve sur la page Facebook de chiz94.3 si vous voulez avoir les liens vers les différents groupes dans lesquels Olivier joue, si vous voulez essayer d'écouter la bass, essayer d'entendre la bass dans les chansons. Un grand merci, Olivier.
Hey, merci à toi, Émilie.
Et c'est comme ça que s'achève l'émission d'aujourd'hui d'Écoute Locale. Les entrevues avec Olivier Amiot, la douceur. La semaine prochaine, retrouvez la playlist de mon collègue Mémo Gauthier avec Écoute Locale, la playlist. 1 heure 100% consacrée à la musique locale de la ville de Québec. Et moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une autre 60 minutes passées avec un artisan de la scène locale musicale de Québec. Je m'appelle Émilie Rioux et je vous souhaite une très belle journée. Ciao, ciao, ciao.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Hey, cet été, Chiz 94.3 va faire les festivals autour.